Vous écoutez RTL. Le grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT. Le débat est dirigé par Olivier Mazerolle.
Bonjour Laurent Berger.
Bonjour.
Nous avons beaucoup de questions à vous poser avec François-Xavier Pietri de LCI et Yves Tréhard du Figaro. Bonjour. Parce que finalement, le climat social, les discussions que vous avez déjà engagées avec le président de la République et vous allez poursuivre peut-être pendant tout l'été d'ailleurs sur la loi de travail et d'une manière plus globale sur les relations sociales vont être déterminantes pour le bon déroulement de ce quinquennat. Par conséquent, on voit qu'il y a un test très important qui commence dès maintenant. Et donc, on va beaucoup vous interroger là-dessus. Mais avant d'entrer dans le détail des choses sur la loi de travail, sur l'organisation de ce climat social, on a envie de connaître votre sentiment sur la manière dont vous voyez les 15 premiers jours de la présidence Macron. Après l'élection d'Emmanuel Macron, vous avez dit être frappé de constater le peu d'enthousiasme que sa victoire avait suscité, victoire sur le Front National, et qu'on était très loin de ce qui s'était produit en 2002. Est-ce que vous êtes maintenant rassuré ?
Ah bah, il faut distinguer ce qu'ont été les 15 premiers jours. On va essayer de ne pas faire un bilan de
la présidence
Macron.
Non, mais 15 premiers jours. Non, non, après.
Qui a été géré
l'entrée en matière, c'est important.
Extrêmement professionnel, sans couac, pour reprendre une expression médiatique. Bon, très bien, y compris d'un niveau international. On l'a vu en Sicile ce week-end. Donc c'est toujours rassurant d'avoir un président de la République français qui assume une position de la France, y compris en termes de valeur à l'international. Et puis, il faut distinguer cela de ce que nous a dit la campagne présidentielle. C'est-à-dire 11 millions de gens qui ont considéré que le Front National au pouvoir était pas forcément un problème, plus tous ceux qui ont nourri de profondes ambiguïtés entre les deux tours. Ça illustre un pays qui va pas très bien. C'est un pays qui, à la fois des citoyens qui ont de profondes attentes à l'égard de ceux qui les dirigent, et qui en même temps ont profonde inquiétude.
Vous avez utilisé une formule très forte il n'y a pas très longtemps, en disant que, à l'occasion de cette élection, s'était exprimé une espèce de nihilisme politique en France.
Oui, je le crois, c'est-à-dire tous ceux qui, à un moment donné, ont exercé des responsabilités en ont été finalement écartés pour cette fois-ci. Ça dit des choses, ça dit deux choses de mon point de vue. C'est d'abord des fractures sociales et territoriales extrêmement profondes, donc de profondes attentes pour régler les difficultés auxquelles sont confrontés les citoyens et les travailleurs. Et de l'autre côté, je crois que cela dit des attentes à hauteur d'homme. Mmh. C'est-à-dire que je crois des citoyens qui ont envie qu'on règle leurs difficultés. Mmh. Et donc, je l'ai dit au président de la République la semaine dernière lorsque je l'ai rencontré, bien sûr, il y a besoin de mesures dites macroéconomiques, des mesures qui permettent de recréer de l'emploi, qui permettent de l'investissement, qui permettent le développement économique, la réduction des inégalités au point de vue global. Mais il faut aussi des mesures dans lesquelles chacun des citoyens et des travailleurs, j'ai envie de dire, puisse se dire « Ah, là, il y a des choses dans lesquelles je peux me reconnaître parce que ça résoudra une partie de mes difficultés. »
François-Xavier Petit.
Oui, est-ce qu'on ne fait pas quand même un procès en légitimité? Parce que vous dites 11 millions, il y a quand même eu 21 millions de personnes qui ont voté pour Emmanuel Macron. Il est aujourd'hui, aussi bien élu que l'avait été Nicolas Sarkozy en 2007, que François Mitterrand en 80, 43% des inscrits à peu près. Donc voilà, il a une légitimité. Et par ailleurs, ce qu'il est en train de faire correspond à ce qui a été mis sur la table. Il n'y a pas, si je puis dire, tromperie sur la marchandise. Tout ce que vous discutez en ce moment était dans son programme.
Ah non, mais en ce qui me concerne, je l'ai même dit, je crois, dans deux interviews successives, il n'y a aucun procès en légitimité à faire au président de la République qui a été élu à M. Macron. Il a été légitimement élu, il est totalement légitime. Et là-dessus, au contraire, je crois l'avoir dit extrêmement clairement. Ensuite, effectivement, il va dérouler son programme tel qu'il était. Mais vous savez, le programme dans une élection présidentielle, c'est une chose. La mise en œuvre est autre chose parce que on rentre dans des détails, dans des sujets qui permettent, qui nécessitent un peu de concertation et de temps. Mais moi, en ce qui me concerne, le président de la République est légitimement élu. il a un gouvernement, il y aura une majorité légitimement élue.
Alors,
et en fonction de ça, la CFDT continuera son travail.
Est-ce que vous redoutez, par exemple, pendant la campagne présidentielle, vous avez dit, il y a le Front National, ça c'est le danger majeur et surtout pas, mais vous avez émis beaucoup de critiques également à l'encontre de Jean-Luc Mélenchon, en dénonçant même une vision un peu brutale et populiste des rapports humains, avez-vous dit. Est-ce que vous redoutez qu'il obtienne un trop grand nombre de députés à l'occasion des législatives ?
Je vais faire une mise au point. J'ai critiqué l'ensemble des candidats, par un bout ou par un autre, pendant cette campagne présidentielle. Pour une raison simple, c'est que la CFDT, elle est totalement neutre et indépendante. C'est-à-dire qu'elle ne se prononce pas pour tel ou tel candidat. Nous sommes cependant extrêmement clairs sur la vision du Front National. Ça m'amuse que, parce que j'ai émis une critique à l'égard de M. Mélenchon, comme j'en ai émis à l'égard de M. Macron ou de M. Fillon, tout d'un coup, pourquoi il prend position. Non, moi, les élections législatives, j'ai qu'un message à donner. Les citoyens, ils votent en leur âme et conscience. Je le redis une nouvelle fois, le Front National est un danger mortifère pour notre pays. C'est la seule et unique...
Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est un danger aussi pour le pays ?
Bah, pas forcément. Ça dépend des citoyens tels qu'ils le sentent. Moi, j'ai des désaccords profonds, chacun le sait, avec M. Mélenchon. Je crois être beaucoup plus décentralisateur dans un certain nombre de visions. Mais il y a aussi des messages qui portent, par exemple, sur l'écologie, qui méritent d'être entendus. D'ailleurs, c'est dit aujourd'hui par le nouveau ministre de l'écologie dans le journal du dimanche. Vous savez, moi, j'ai pas envie. Vous savez, je crois qu'il faut qu'on prenne conscience. Le lendemain des élections présidentielles, il y a évidemment les élections législatives. Mais ce n'est pas le sujet principal, bizarrement. Le sujet principal, c'est comment on améliore la vie des citoyens et des travailleurs. Alors sinon, on va continuer à faire du commentaire politique sur tel ou tel, et on ne va pas s'occuper des réalités telles qu'elles se sont exprimées, avec de profondes fractures, je le répète.
Tout à l'heure, vous avez utilisé un mot qui vous est cher, concertation, en disant qu'il faut davantage de concertation, davantage d'horizontalité. Le président de la République lui-même dit « moi, je veux une présidence jupitérienne », et plutôt verticale, avec une forte autorité, puisqu'il faut restaurer l'autorité du président de la République. Qu'est-ce que vous lui répondez ?
Je réponds que l'autorité de celui qui dirige le pays est extrêmement importante. Mais je réponds que vouloir gouverner seul et de façon verticale, ça ne correspond ni aux attentes des citoyens, ni à la façon dont fonctionne notre société aujourd'hui. Et je crois qu'il y a une profonde aspiration à une forme d'horizontalité. S'il y a une profonde aspiration des citoyens, mais des travailleurs, et nous l'avons vérifié à travers l'enquête que nous avons faite sur le travail, qui s'appelle Parlons Travail, à avoir de la prise sur les choix qui les concernent. C'est-à-dire que ce qui est exprimé, c'est que, d'accord, nous avons une attente vis-à-vis de ceux qui nous dirigent, du pouvoir politique, mais nous voulons aussi être concertés, associés dans les choix qui seront faits. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une décision in fine, mais ça veut dire qu'il n'y a pas des sachants dans un pays qui seraient ceux qui dirigeraient le pays, ou ceux qui seraient responsables, par exemple, des corps intermédiaires, y compris. Et puis, de l'autre, ceux qui devraient écouter. Une société à qui il faut redonner des marges de manœuvre. Il faut faire un peu respirer notre démocratie.
Vous redoutez un peu ça de la part d'Emmanuel Macron, une forme d'autoritarisme, moi je sais, et puis...
Pas du tout ce que j'ai ressenti dans le rendez-vous que j'ai eu avec lui. Pas du tout. Vous savez, je le répète, je ne vais pas commencer à faire la critique d'un homme qui vient d'accéder à la responsabilité il y a 15 jours. Ce n'est pas mon sujet. Moi, je ne suis pas dans une logique partisane. Mon ambition, c'est de faire entendre ce que sont les aspirations du monde du travail. Et je le répète, il y a une aspiration à être davantage pris en compte dans les entreprises, à une forme de démocratisation de l'entreprise. Et je crois que là-dessus, il y a eu un discours du président de la République à Albi pendant la campagne qui dit des choses. Et il y a une aspiration à résoudre les inégalités, les problèmes concrets vécus au travail, dans l'emploi, au chômage, par les citoyens. C'est ça qui m'intéresse.
On l'a quand François même entendu dire pendant la campagne, les syndicats défendent les intérêts catégoriels et pas l'intérêt général. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une vision un peu différente après
Je crois qu'il en est un peu revenu parce que aussitôt je lui ai dit que je considérais, et c'est l'histoire de la CFDT, que le syndicalisme et notamment la CFDT contribuaient à l'intérêt général. Contribuaient, ça veut dire que nous n'avons pas la responsabilité de le définir à nous tout seuls, évidemment, mais contribuer à l'intérêt général, que ce soit sur les questions sociales ou les questions sociétales. Vous savez, ce serait extrêmement dangereux, vu ce qui vient de se passer dans les élections. Un pays où on considérerait que les corps intermédiaires sont dans des logiques de lobbying, certains le font très bien, je pense au patronat notamment, ils seraient dans des logiques de pur lobbying, mais n'auraient pas à assumer une part de responsabilité dans les choix qui seraient faits. Moi, je crois que notre pays est en crise de responsabilité de la part d'un certain nombre d'acteurs, qu'ils soient politiques, syndicaux ou patronaux. Et que si on veut lutter contre ça, il faut leur redonner de l'espace, dans une forme de concertation, il faut qu'ils assument une part de responsabilité, y compris en disant, bah voilà, là-dessus, nous assumons et alors, nous tenons notre position. Si nous ne le faisons pas, eh bien, vous verrez. Ça démarre bien, mais au bout d'un moment, il y aura un problème, c'est qu'il y aura le peuple et le président, et en général, ça se finit pas très bien, cette
histoire-là.
Alors,
précisément, on va en venir dans un instant à la loi travail. Le président Macron...
D'abord, je ne sais pas pourquoi vous l'appelez la loi travail.
Hein. Oui, mais enfin bon.
La réforme, la réforme du travail. Ça n'est pas la loi travail.
Le président
d'ailleurs,
Macron...
D'ailleurs, est-ce qu'il
y en a un nom ? Le président Macron en a fait sa priorité. Mais vous, est-ce que vous souhaitez qu'il aborde le problème un peu différemment en définissant plus globalement ce que doivent être les rapports sociaux en France, le rôle des syndicats, du patronat et de l'État ?
Oui, je crois que dans sa volonté... qu'il nous a exprimé tous individuellement cette semaine, d'à la fois de redonner une autre place aux représentants du personnel dans les entreprises.
C'est-à-dire
Aujourd'hui, les représentants du personnel des entreprises, l'institution représentative du personnel, le président de la République, a exprimé la volonté de leur redonner du poids. Oui,
de leur redonner
du poids. Oui, mais
de fusionner le comité d'entreprise, des délégués du personnel.
Il y a des conditions pour cela, à condition que le CHSCT garde une autorité, sur les questions de sécurité et de conditions de travail.
Mais vous n'êtes pas opposé à la fusion de ces différentes instances.
Moi, je suis pour. Vous savez, avant d'être opposé, un syndicaliste, normalement, il propose. Moi, je suis pour que les représentants du personnel aient davantage de poids dans l'entreprise, aient davantage de prise pour participer aux décisions qui les concernent. Et là, je veux une forme de codétermination à la française. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les représentants du personnel seraient associés davantage à la stratégie économique d'entreprise, mais aussi aux questions d'organisation du travail, de responsabilité sociale et sociétale des entreprises. Je pense qu'il y a une avancée à faire. Vous savez, une entreprise...
qu'on aille vers une cogestion à l'allemande.
Ne copions pas. Ne cherchons pas à copier, cherchons à définir nous-mêmes notre modèle. Vous savez, une entreprise, les Allemands, ce qu'ils ont compris, c'est qu'une entreprise, c'est pas simplement qu'un centre de profit. Aujourd'hui, y compris nos textes à nous, nos textes français, disent qu'une entreprise, ça a pour ambition de faire du profit. Moi, je crois qu'une entreprise, elle a une responsabilité sociale et sociétale. Et qu'on peut confier à une entreprise une autre forme de responsabilité à l'égard de ses salariés, mais aussi à l'égard de ses parties prenantes. Et je souhaiterais qu'on aille davantage là-dessus, y compris dans la démocratisation. Vous savez, il y a une entreprise qui vient de le faire, de façon intéressante, c'est Danone, qui vient d'adhérer à Bicorp. Bicorp.
Que connaît bien la ministre du Travail.
Muriel Pénicaud.
De fait. Alors, c'était après. Elle. C'était après.
DRH
non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils se sont donnés comme objectif, au-delà du profit, de la rentabilité, et personne ne va être contre ça, ils se sont aussi donnés comme objectif de traiter correctement l'ensemble des salariés sur l'ensemble de la planète, mais également d'avoir une responsabilité en termes alimentaire et de développement durable. Et voilà, on pourrait faire très bien ça, aller davantage vers ça dans l'entreprise.
Vous voulez donc que, par exemple, les salariés soient présents dans les conseils d'administration ?
Je souhaite, que les salariés soient présents davantage dans les conseils d'administration. C'est le cas depuis 2013. Oui, on l'a pas ainsi dit. Oui, mais enfin, vous savez, au moment où on l'a mis en place dans l'accord en 2013, les chefs d'entreprise disaient c'est un problème, etc. Maintenant, on les rencontre, les patrons qui ont des représentants des salariés dans le conseil d'administration, ils nous disent c'est intéressant quand même d'avoir quelqu'un
et
qui
vous
parle
souhaitez
enfin
ça
du travail
pour toutes
dans
les entreprises, quelle que soit leur dimension.
Évidemment, il faudra regarder pour les PME, on n'est pas dans les mêmes logiques. Je souhaite pour toutes les entreprises qu'on s'interroge sur le dialogue social et la place des représentants du personnel dans ces entreprises, oui.
Monsieur Berger, je voudrais vous poser une question avant qu'on rentre plus en détail dans la loi travail, dans la réforme du code du travail. Il y a actuellement un projet de loi sur la moralisation de la vie politique, de la vie publique. Il ne vous a pas échappé qu'il y a une tribune qui est sortie hier dans le Figaro, excellent journal que vous avez sans doute lu, de Nicolas Perruchot, ancien député, qui avait fait un rapport il y a 6 ans pour dire qu'il y a beaucoup d'opacité dans le monde syndical. Et il serait bien que, finalement, la vie syndicale, les syndicats, les élus syndiqués, ils soient soumis au même traitement que les hommes politiques en vertu de ce projet de loi. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Mais de quoi parle-t-on ? De leur transparence ?
Oui.
Il y a transparence.
Mais il y a eu pas mal de scandales.
La CFDT, depuis 7-8 ans, publie ses comptes. Laissez-moi finir. Depuis 7-8 ans, la CFDT publie ses comptes, avant même l'obligation légale. C'est transparent, c'est au journal officiel, vous pouvez aller voir. Il y a eu volonté d'assainir, d'une certaine manière, en tout cas de rendre plus transparent le financement des organisations syndicales et patronales par le biais des fonds publics. parce qu'il contribue à l'intérêt général, il gère un certain nombre de systèmes. Il y a une association qui s'appelle l'AGFPN qui a été créée pour le faire. Mmh. Aujourd'hui, les fonds sont tracés et doivent être justifiés au centime près. Donc voilà, je veux dire,
il y a une transparence dans le monde syndical aujourd'hui.
Oui, bah oui.
Il n'y a pas d'opacité.
Non.
Et la limitation des mandats.
En tout cas,
par exemple,
vous parle de la CFDT.
Oui.
Vous permettez d'engager avec la CFDT.
Est-ce que vous seriez pour la limitation des mandats, puisqu'on exige ça des hommes politiques? Est-ce que les élus.
François Chérec a fait 10 ans. Nicole ouais. Nota a fait 10 ans. Ouais. Vous êtes d'accord?
Et vous en êtes...
Pour l'instant, je suis à 4 ans et demi, vous permettez d'en
parler
un peu. Mais c'est aussi une volonté de ne pas dépasser cette durée. Et c'est marrant qu'on a entendu pendant cette campagne électorale des politiques que j'écoute depuis quasiment que je suis au collège nous expliquer qu'il faudrait des mandats limités pour les représentants du personnel dans les entreprises.
Oui.
Vous savez, on essaye de faire le renouvellement dans les entreprises. Et d'ailleurs, ça se passe bien dans certaines entreprises, plus difficilement pour d'autres. Pourquoi ça se passe difficilement parfois? Parce que sur la reconnaissance des parcours militants, le fait que quand on est représentant du personnel, on développe des compétences qui méritent d'être reconnues quand on en sort, c'est pas toujours facile. Et notamment pour des jeunes, c'est pas toujours facile, notamment pour des jeunes qui occupent des responsabilités dans l'entreprise. Donc il faut travailler sur ce sujet. Ça fait partie des sujets que la CFDT veut porter dans les semaines et les mois à venir.
Il n'y a pas besoin de plus de, comment dire, de simplification, on va dire, dans le financement, notamment des syndicats. On sait tous que la formation professionnelle est un instrument de financement, que le paritarisme a aussi ses défauts.
Pour vos auditeurs, je pense qu'il faut que vous soyez plus précis. Parce que ça donne le sentiment que les organisations syndicales seraient financées par des fonds extérieurs.
Nous sommes financés
par nos adhérents. Nous sommes financés par nos adhérents majoritairement. Et ensuite, nous participons à la conduite d'une action d'intérêt général et pour lequel les organisations syndicales et patronales, on n'en parle finalement pas assez dans ce cas, ont une aide financière. C'est-à-dire, dans une démocratie, si on ne finance pas les corps intermédiaires, on n'a plus de corps intermédiaires. C'est une autre chose, c'est plus vraiment la démocratie d'ailleurs.
Alors, vous allez, je crois, rencontrer le Premier ministre.
Demain.
Est-ce que vous avez, ou est-ce que vous redoutez qu'il y ait une sorte de double jeu ou de distribution des rôles entre le président de la République, gentil, qui vous écoute, et un Premier ministre qui va brandir le bâton parce que lui, il veut absolument que tout aille vite et que finalement, la réforme du Code du travail soit mise en route dès la fin du mois d'août ?
Non, mais d'abord, il a déjà reçu un certain de mes collègues. Donc c'est pas l'écho que j'en ai eu, cette volonté d'aller très vite avec le bâton. Puis vous savez, ouais, je n'ai pas peur tous les matins en fait. Ça peut vous apparaître bizarre pour un syndicaliste, mais j'ai pas peur tous les matins, je suis pas en train de craindre. Chacun va jouer sa partition, son rôle, et l'idée c'est qu'à un moment donné, est-ce qu'on a envie que ça réussisse dans notre pays ou ça coince? Moi j'ai envie que ça réussisse, pas pour être utile à tel ou tel, pour être utile simplement à ceux que je représente, qui sont les travailleurs. Et donc, demain au Premier ministre, nous allons d'abord lui apporter un gros dossier. La CFDT va lui apporter un gros dossier avec tout un tas de propositions.
Quel dossier ?
Un dossier de propositions de la CFDT.
La réforme du Code du travail ?
Non, sur tous les sujets, vous savez, compris la question européenne, sur la question de la mondialisation. Nous réclamons, par exemple, dans le cadre des G20, une conférence sociale qui est réclamée à la fois par le L20 et le B20, qui sont les salariés et les patrons. Nous allons sur la protection sociale, sur l'outre-mer, etc. Parce que la CFDT est une organisation qui produit des idées et nous allons les apporter au Premier ministre.
Mais ça veut dire que vous n'êtes pas encore rentré dans une phase. On a vu, avant, c'était consultation pendant la campagne, puis après concertation. Maintenant, est-ce que vous rentrez demain dans une phase de négociation
cette réforme ? C'est ce que je souhaite, rentrer dans une phase de concertation.
Est-ce que vous avez des assurances là-dessus ?
Écoutez, le président de la République, je lui ai dit que le délai me paraissait trop contraint, qu'il fallait le repousser et non pas passer des ordonnances en août. D'abord, ça donne le sentiment, je vais finir, ça donne le sentiment d'être un peu précipité. Et quand on regarde tous les sujets qui sont sur la table, il faut donner plus de temps. Plus de temps, ça veut dire quoi ? On peut être rapide sans être précipité. Plus de temps, ça veut dire aller jusqu'à fin septembre pour qu'on ait le temps de regarder ce qui doit être traité dans le Code du travail, ce qui doit être traité dans la branche, ce qui doit être traité dans l'entreprise.
3-4 mois, ça suffit.
Écoutez, 3-4 mois, c'est juin,
pour la concertation.
Pour la concertation. Juin, juillet, août.
Et lui,
on va essayer de prendre quelques jours de congé.
Il a prévu que la ratification des ordonnances, ça serait précisément fin septembre.
Au début, quand on l'a rencontré, c'était plutôt, si je peux me permettre, sans trahir de secret, c'était plutôt en août.
D'accord.
Pour l'instant, on n'a pas confirmé.
Non, c'est pas confirmation.
Moi, en ce qui me concerne, j'ai pas eu confirmation. C'est un des sujets qu'on veut aborder
demain.
Avec le Premier ministre demain. tout le monde a compris.
Vous voulez fin septembre?
Ah, moi, je veux qu'il y ait le temps de la concertation nécessaire.
Oui, mais c'est quoi? C'est un mois,
je pense
mois,
qu'il
trois
faut,
mois,
il faut,
mois,
il faut aller faire fin septembre, début octobre.
Pour la ratification, pour que, on est d'accord.
Oui, pour qu'on ait le temps de discuter du fond des sujets. Et je crois qu'il y a d'autres organisations syndicales, on est plusieurs, à dire que nous voulons discuter du fond des sujets. Et après, le pouvoir politique aura la légitimité à travers le Parlement et le gouvernement.
Mais est-ce que vous faites confiance au gouvernement pour présenter dans la loi d'habilitation sur les ordonnances un projet qui correspondra à ce à quoi vous serez parvenu en accord avec lui ?
Mais la question n'est pas seulement une question de confiance. D'abord, moi, j'ai plutôt confiance a priori avec mes interlocuteurs. Vous savez, je suis un négociateur. J'ai beaucoup négocié. À chaque fois, vous considérez que celui qui est en face, vous ne pouvez pas lui accorder une part de loyauté, ça ne fonctionne pas. Et je crois qu'un peu, les rapports sociaux en France crèvent un peu de cela. La question n'est pas simplement de la confiance, c'est de l'exigence. L'exigence mutuelle. Tout le monde a compris qu'il y a un certain nombre de sujets qui seront sur la table. Il y a des sujets avec lesquels la CFDT sera d'accord. Il y a d'autres sujets avec lesquels la CFDT ne sera pas d'accord. Il y a d'autres sujets sur lesquels nous demanderons à travailler davantage. J'ai proposé au président de la République, par exemple, qu'on ouvre une négociation sur l'intégration dans l'entreprise des actifs les plus éloignés de l'emploi. Je pense aux jeunes et je pense aussi aux seniors et aux demandeurs d'emploi longue durée, parce qu'on a besoin de mesures à hauteur d'homme. Et donc, si, je lui ai dit, si on fait repartir, si ça repart au niveau du marché du travail, il y a des emplois qui sont créés, etc., ça ne suffira pas. Je suis assez compétent en la matière, j'ai été conseiller en insertion professionnelle. Ça ne suffira pas à remettre à l'emploi des salariés qui en sont durablement exclus. Qu'est-ce... Et donc, là-dessus, il pourrait très bien saisir les organisations syndicales et patronales d'une négociation en disant, monsieur, dans les trois mois, vous me faites monsieur, trois propositions phares pour permettre cela.
Monsieur Berger, sur la réforme du Code du travail, quel est le point sur lequel vous êtes en désaccord total? Est-ce que ce sont la barémisation des prud'hommes? Est-ce que
le point sur lequel
l'inversion de la hiérarchie des règles
Le point sur lequel je suis en profond désaccord, c'est la question de la barémisation des indemnités prud'homales. Pourquoi? Si on peut s'arrêter deux minutes.
Ouais.
Tout simplement parce que je crois à une justice qui répare l'intégralité du préjudice subi. Dans le cadre du droit du travail, le préjudice subi pour un licenciement abusif, eh bien, c'est à définir par les juges. Donc ça, je l'avais dit au moment de l'élaboration de la loi Macron au ministre de l'économie de l'époque. Il y avait eu un renvoi devant le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel avait cassé cette disposition.
Alors,
ça avait été dans la loi travail version numéro 1 que j'ai combattu, que la CFDT a combattu. Ça a été enlevé et il revient avec. La CFDT demeure sur le fond opposé.
L'autre jour, quand vous l'avez rencontré, est-ce que le président de la République s'est montré en désaccord avec le ministre de l'économie de l'époque?
Non. Non, malheureusement. Non, bien sûr que non. Et d'ailleurs, il savait bien que c'était un point dur. Mais pourquoi, pourquoi on serait d'accord sur tout?
Voilà, est-ce que c'est un point dur ou est-ce qu'il y a un compromis? Est-ce qu'il y a un compromis possible? Par exemple, on entend Jean-Claude Mailly dire « Bon, mais s'il y a des exceptions qui montrent que finalement, dans certains cas, le juge peut avoir le dernier mot, alors on peut... »
Oui, j'ai entendu Jean-Claude Mailly, Philippe Louis dire que ça dépendra du niveau du plafond. Évidemment, ça dépendra s'il y a un plancher, évidemment. Ça dépendra aussi sur quel, par exemple, en cas de licenciement abusif de quelqu'un de malade, etc., ou pour harcèlement, ou je ne sais quoi, évidemment, il y a possibilité de dérogation. Vous savez, nous allons arriver avec nos propositions, nos contre-propositions.
Donc vous, au départ, c'est niette de chez niette.
J'ai dit que j'y étais opposé par principe.
Non, la barémisation,
oui,
voilà.
J'ai dit que j'y étais opposé par principe. Après, la CFDT, elle va travailler à ce que, si les choses devaient se mettre en place, ce soit le moins difficile possible pour les travailleurs sur ce sujet-là.
Ce qui veut dire, si on vous écoute bien, si on comprend bien, c'est que, a priori, ça pourrait se faire, la barémisation, alors.
Mais de toute façon, vous avez bien compris que c'était pas moi qui le décidais. Il y a quand même un président de la République et un gouvernement. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que
vous auriez des contreparties.
Non, mais d'abord, moi, je ne suis pas en train de négocier. Attendez, je vous ai dit que c'était une question de principe. S'il y a un point sur lequel la CFDT ne transige jamais, c'est des questions de principe et de valeur. Là, je pense qu'il faut une réparation intégrale. Ensuite, évidemment qu'un barème obligatoire, une barémisation qui serait avec un plafond extrêmement bas, ça n'a pas exactement la même conséquence pour les travailleurs qu'un barème qui serait au-dessus de la moyenne des indemnités.
Non, mais si ça ne marche pas,
si ça ne marche aujourd'hui.
Pas, vous descendez dans la rue en septembre?
Oui, mais vous voyez, c'est... Et puis, dans un an et demi, on fait quoi? Si ça ne marche pas, On dira qu'on continue à être en désaccord et on regardera les autres parties aussi des évolutions qui sont souhaitées. Parce que c'est un des sujets, parmi les autres sujets, il ne vous a pas échappé qu'il y a la question des instances représentatives du personnel et la question du dialogue social dans l'entreprise.
Du référendum, et le compte pénibilité qui va voler en éclats, apparemment. Enfin, en tous les cas, il y a un moratoire.
Ça, c'est vous qui le dites. Ça, c'est pareil, je suis opposé. Vous savez, je pense que si la question, comme le dit le patronat, c'est une question de mise en œuvre. Alors, même si je suis toujours étonné que dans certaines entreprises, on est capable de mesurer la productivité individuelle de chaque salarié, mais pas de mesurer son exposition au risque, ou insuffisamment, je trouve ça étonnant et de la mauvaise foi de la part du patronat, surtout qu'ils ont sorti un certain nombre de référentiels de branche et ils sont incapables de les appliquer parce que le MEDEF demande à ce qu'on ne les sorte pas. Sur la pénibilité, je vais être clair. La CFDT pense que c'est une mesure de justice sociale. Vous savez, il y a aussi la question des retraites qu'on parlera plus tard.
Oui, on va en parler.
Mais c'est une question de justice sociale. Je veux juste dire ce que c'est le compte pénibilité. Et, excusez-moi, mais je crois que c'est important pour les auditeurs. Ça veut dire que des gens qui vont mourir plus tôt parce qu'ils ont des conditions de travail pénibles ou alors qui vont vieillir en plus mauvaise santé que les autres parce qu'ils ont des conditions de travail pénibles est une forme de réparation par du temps pour se former pendant leur carrière professionnelle ou pour partir plutôt à la retraite. Problème de mise en œuvre. S'il y a un problème de mise en œuvre, on le règle et on le discute et on regarde comment on le met en œuvre intelligemment, mais on arrête de considérer, après ce qui vient de se passer aux élections présidentielles, que ces personnes serait comme quantité négligeable, parce que ce qui compte, c'est l'économie.
Mais est-ce que
la
ça
justice
bute pas
sociale, ça a un coût et on a une responsabilité en la matière.
Est-ce que ça ne bute pas sur la mise en œuvre? Parce qu'une fois qu'on a, une fois qu'il y a eu la pétition de principe...
La CFDT fera des propositions, M. Mazorek.
Voilà, la pétition de principe que vous venez d'évoquer, on est tous d'accord pour dire qu'il y a des métiers...
C'est qu'on soit toujours dans la prévention.
Comment les définir?
Toujours dans la prévention et qu'on ne soit pas dans la médicalisation. Vous savez, moi, je viens d'une région industrielle. Il y a des gens qui souffrent du cancer de l'amiante après être partis en retraite. Eh bien, on a fait il y a eu des avancées sur la question de l'amiante parce qu'on a considéré que le temps d'exposition, c'était un risque d'être malade après, et donc ça méritait d'être compensé. C'est cette même logique qu'il faut avoir, et donc pas être dans la médicalisation individuelle.
On va marquer une pause pour les informations de 13h et on reprend cette discussion sur la réforme du droit du travail et puis les retraites et l'assurance chômage.
Suite du grand jury, RTL Le Figaro LCI, invité aujourd'hui, Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT. Le débat est dirigé par Olivier Mazerolle.
Laurent Berger, nous reprenons avec Yves Tréhard et François-Xavier Pietri, qui a une question tout de suite à vous poser sur les accords d'entreprise.
Alors effectivement, cette fameuse hiérarchie des normes, l'inversion, ce qui veut dire en fait que dans le projet aujourd'hui de cette loi travail, je ne sais pas si on peut l'appeler loi travail ou réforme du marché du travail ou réforme du code du travail, l'idée est donc de descendre des décisions au niveau de l'entreprise concernant l'organisation du travail, l'organisation des conditions de travail, des salaires, le temps, etc. Et donc qui pourrait devenir supérieur au code du travail d'une certaine façon. Et par ailleurs, l'idée est également de mettre en place un référendum à destination des salariés qui pourraient décider de cette organisation sans passer par les syndicats. Est-ce que pour vous, ce sont d'abord la lecture que vous avez de ce projet et est-ce que ce sont des points de blocage pour vous ?
D'abord, c'est une question de sens. Parce que tout ça donne le sentiment qu'on serait dans des mécaniques, quoi. Qu'on serait le sens... Je tiens à le dire, il n'y a pas de réforme du code du travail en soi qui soit créatrice d'emplois comme par miracle. Il faut se sortir ça de la tête. Ça ne veut pas dire, et je vais y revenir, qu'il n'y a pas nécessité de rediscuter de la question du code du travail et de la façon dont on crée les droits les plus adaptés aux citoyens.
On connaît l'idée. L'idée du président, c'est de dire on donne plus de souplesse, on donne plus de flexibilité.
Sans investissement durable dans les transitions écologiques, dans le numérique. Tout cela sans aide particulière aux demandeurs d'emploi qui en ont le plus besoin. Des choses qui sont d'ailleurs dans le programme du président de la République.
50 milliards d'investissements.
Ça n'a pas le même poids, on est d'accord. Je viens à votre question, mais je crois que le président de la République...
La flexisécurité,
Le président de la République serait bien inspiré avec le gouvernement de donner du sens à ce qu'il veut faire. Et pas simplement donner le sentiment qu'il y a une forme de mécanique dont on s'occupe.
Parce que vous considérez qu'aujourd'hui, le fait de démarrer par ce projet-là en laissant dans un deuxième temps, on va y revenir après, la réforme de l'assurance chômage, des retraites, etc. Il aurait fallu au contraire présenter un bloc, présenter une orientation générale.
Je crois très clairement que il faut bien démarrer par un point dans un programme pour un nouveau président de la République. Mais je crois qu'il faut que viennent très vite des questions de protection des demandeurs d'emploi et des salariés à travers, par exemple, le compte personnel d'activité, dont il faut se demander comment on continue à le faire vivre, à travers la formation des chômeurs, il y a des choses qui sont prévues, mais également à travers, j'en ai parlé, l'aide au retour à l'emploi des publics les plus en difficulté.
L'obligation de reprendre un emploi après deux refus.
Ça existe déjà dans le Code du travail. Ça, on va s'apercevoir assez vite, à mon avis, que c'est assez cosmétique. Ça existe déjà dans le Code du travail.
Oui. Sauf qu'il y a à peu près 100 exemples par an. Mais bon, on y reviendra tout à l'heure.
Oui, mais pour avoir été en situation de conseiller en insertion professionnelle, je peux vous assurer qu'il y a la théorie puis il y a la pratique.
Mais pourquoi, c'est exactement quand différent. Même, mais juste sur l'état d'esprit, parce que quand même, pourquoi un système comme celui qu'on appelle la flexi-sécurité, alors je ne dis pas qu'il faut appliquer exactement ce qui se passe au Danemark, par exemple, mais qui a l'air de plutôt bien fonctionner dans certains pays, pourquoi en France, on ne parvient pas à le mettre en œuvre
alors qu'on en parle depuis 15 ans, 20 ans. Mais monsieur Mazerolle, on parvient à le mettre en œuvre. Est-ce qu'il n'y a pas des mesures de sécurisation des parcours des salariés qui ont été mises en place récemment, dans les 10 dernières années? Bien sûr que oui. Et qui, en même temps, sont des éléments de souplesse pour les entreprises. Enfin, vous savez, il faut pas... Je vais vous prendre un exemple qui paraît... C'est les chefs d'entreprise, on les entend depuis 20 ans dire « mais c'est les conditions de rupture qui sont trop compliquées ». La rupture conventionnelle, elle a été établie comment en 2008, sous un gouvernement de droite? Elle a été établie par un accord interprofessionnel. La négociation des plans sociaux, dont on disait « quand ça prend 24 mois, c'est antinomique avec le développement économique, l'agilité des entreprises ». Aujourd'hui, ils sont négociés. D'ailleurs, souvent, c'est mieux pour les salariés parce qu'au moins, on obtient des mesures de reclassement, etc. etc. Donc, il y a des choses qui se sont mises en place de côté souplesse. De la même manière, il s'est mis en place des questions en termes de sécurité, le compte personnel d'activité, le compte personnel de formation, les droits chargés à l'assurance chômage.
Vous êtes en train de dire que cette réforme du
la flexisécurité, c'est pas compris.
D'utilité.
Force est de constater que c'est pas tellement compris. Donc moi, vous savez, je m'enchaîne pas à des mots ou à des concepts. Je veux regarder les choses en face.
Là, sur
le code du travail d'abord, si vous permettez. Moi, je crois que le code du travail doit garantir un socle important de droits sur lesquels il est impossible de déroger. Je pense au salaire minimum, la question de la sécurité au travail. C'est extrêmement important. Chacun ne peut pas faire ce qu'il veut pour des raisons de nécessité économique.
Ça ne doit pas relever de l'entreprise.
Ça ne doit pas relever de l'entreprise et ça doit être un socle important. Pourquoi ? Pour inciter à négocier. Ensuite, il y a ce que la branche doit déterminer. Et pour ça, il faut réduire le nombre de branches. Ce que la branche doit déterminer, c'est ce qui permet à des secteurs professionnels de s'organiser entre eux. Je pense notamment aux classifications. Il faut que les déroulements de carrière... les classifications soient vues au niveau de la branche. Il faut aussi des choses qui permettent aux PME de faire face lorsqu'il n'y aura pas de négociation d'entreprise. Je ne suis pas en désaccord avec les accords types dans les branches, mais aussi avec les branches qui déterminent un certain nombre de dispositions.
Alors, qu'est-ce qui reste aux entreprises, alors ?
Eh bien, il reste aux entreprises la capacité à regarder sur la question de l'organisation du travail, de la responsabilité sociale.
Le temps de travail ?
Oui, mais c'est déjà le cadre de la loi travail précédente.
D'accord.
Ça, on ne va pas refaire le débat de l'été dernier.
Il y a une extension sur les salaires et sur les conditions de travail.
Et donc, du coup, la question des conditions... Vous savez, l'organisation du travail, c'est fondamental pour moi. C'est un des sujets qui n'est jamais mis sur la table dans une entreprise. Mmh. C'est encore... Les patrons ont une vision assez jalouse de l'organisation du travail parce que c'est un peu le nerf de la guerre. Eh bien, sur toutes ces questions-là, l'entreprise peut négocier. Mais à une seule condition, enfin à plusieurs conditions. La première... c'est que ce soit une négociation avec des représentants des organisations syndicales, des représentants des salariés qui soient syndiqués.
Donc pas de référendum direct auprès des salariés?
Certainement pas, comme pour Smart, certainement pas.
Ça, vous le refusez, ça?
Oui, ça, je le refuse. Et des accords majoritaires. Ensuite, vous savez que la loi El Khomri avait institué un référendum. La CFDT n'en était pas demandeur. À l'usage des organisations syndicales signataires lorsqu'elles faisaient 30%, qu'il y ait dans ce cadre-là des choses qui évoluent. Mais moi, ma philosophie, c'est un accord à 50%. Je crois à la responsabilité, à l'engagement. Et pour cela, je pense qu'un certain nombre d'accords d'entreprise doivent avoir comme cadre un accord majoritaire à 50% avec une organisation syndicale.
Donc le chef d'entreprise qui veut organiser un référendum dans son entreprise sur une histoire d'organisation du travail...
Sans être passé par un accord, non.
Il ne peut pas.
Non.
D'accord.
Non, mais vous savez, il faut savoir ce qu'on veut. On nous vend l'Allemagne en permanence.
Oui.
Des fois, il y a des choses bien, puis des fois, il y a des choses moins bien. Mais on oublie une chose, en Allemagne. C'est qu'il y a une codétermination. Moi, je crois, si on veut remettre du dialogue social au plus près des salariés pour recréer de la norme au plus près des salariés sur un certain nombre de sujets qui les concernent, et moi je considère que sur la question de l'organisation du travail, c'est ni vous ni moi qui sommes en capacité de dire dans telle ou telle entreprise comment ça doit se passer, eh bien, il faut faire confiance au dialogue social et à l'organisation syndicale. Et ça, et troisième condition, ça veut dire qu'on donne aux représentants des salariés un pouvoir accru dans les entreprises avec les moyens pour fonctionner.
Mais est-ce que le fond du problème n'est pas là, justement, quand vous dites qu'il faut faire confiance aux organisations syndicales ? On en arrive à ce type de loi parce qu'on dit, en fait, ça ne marche pas. Parce qu'il y a des organisations syndicales qui sont systématiquement contre, en tout cas au niveau national. Est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à faire pour vous sur la représentativité des syndicats et sur le rôle que vous avez à jouer ? C'est peut-être l'un qui explique l'autre.
Monsieur Futry, j'ai un peu l'impression que vous êtes endormi le 29 mars dernier. parce que le 31 mars... Il y a un petit événement qui s'est passé dans le paysage syndical français. Oui. Le vote des salariés dans les entreprises a mis en tête une organisation syndicale qui est la CFDT. Ça ne s'était jamais passé depuis 1895. Et la naissance...
Donc à partir de ce jour, tout va bien se passer.
Non, ce que je vous dis, c'est que le syndicalisme est en train de changer de visage. Et vous pouvez regarder ces dernières années, ces dernières décennies, la CFDT, lorsqu'elle y a eu des choix qui avaient du sens pour elle, qui étaient bons pour les salariés et les travailleurs, mais qui aussi préservaient une forme de modèle social à la française, où ce n'était pas n'importe quoi qu'on pouvait faire en disant on peut licencier facilement, etc. La CFDT a assumé sa part de responsabilité.
Est-ce que vous considérez que Jean-Claude Mailly est un allié aujourd'hui, par exemple ?
Jean-Claude Mailly, c'est un interlocuteur syndical important.
Dans les discussions qu'on a eues ces derniers jours,
il est responsable de la troisième organisation syndicale française. Et donc, c'est un interlocuteur respectable comme tous les autres. Et comme Philippe Martinez-Lay, comme Philippe Louis et comme François Aumry.
Mais est-ce que vous avez l'impression d'être un peu seul ? Finalement, non. Ou est-ce que vous avez des alliés dans le monde syndical ?
Mais d'abord, la CFDT n'est pas seule. Vous savez, tous les matins...
Dans votre orientation, j'entends.
Non. Enfin, d'abord, vous savez, quand on est... Si jamais ça avait été le cas. En tout cas, quand on est la CFDT, on est le responsable de la CFDT, et qu'on s'aperçoit que les salariés ont fait plus confiance à la CFDT qu'à d'autres organisations syndicales pour la première fois de leur histoire, on se dit qu'on n'est pas totalement dans le faux, quand même. Donc, ça veut dire que moi, mon objectif, il est ni d'être seul... ni d'être mal accompagné. Mon objectif, il est que la CFDT, elle soit toujours présente pour faire une chose. C'est de considérer que dans un monde qui change, il y a un certain nombre de règles à adapter, mais qu'en même temps, ça ne peut pas se faire sur le dos surflexibilité ou d'une précarité pour les travailleurs. Donc ça veut dire de regarder la réalité en face pour continuer de construire un modèle social qui soit adapté aux nécessités.
Vous savez très bien que c'est également compliqué pour un syndicat d'être tout seul à accepter certains accords avec le patronat ou avec le gouvernement. Dans le passé, la CFDT a connu cette difficulté. Ce n'était pas vous qui étiez
aux
manettes à l'époque. Oui, mais d'accord. Mais donc, cette réputation qui vous a été faite, qui a été faite à la CFDT, j'entends bien, ce n'était pas vous qui étiez aux manettes à ce moment-là, d'avoir été complice du gouvernement, est-ce que c'est pour vous un handicap dans la signature de certains accords ou pas ?
Non seulement je n'étais pas aux manettes, mais je l'assume totalement et j'en suis fier de ce qu'a fait François Chirac en 2003. Il a permis à 1 million de travailleurs qui n'avaient pas l'âge légal de la retraite à partir avant l'âge légal de la retraite parce qu'ils avaient des carrières longues. Donc vous savez, l'adversité, si vous ne voulez pas d'adversité, vous refusez de diriger une organisation syndicale. Mais moi, la question qui est posée aujourd'hui, ce n'est pas comment la CFDT se positionne, c'est comment on améliore la vie des uns et des autres. Et je pense qu'un syndicalisme qui se contenterait de rester au bord du terrain et de commenter le match et de ne pas vouloir mettre les pieds sur le terrain pour essayer de faire valoir ses arguments serait un syndicalisme qui n'aurait pas d'avenir. Et vous le situez tout à l'heure en disant d'abord, il n'y a pas que le syndicalisme qui doit évoluer. Il y a aussi les organisations patronales. Il faut arrêter de faire les listes au Père Noël.
Les partenaires sociaux.
Les partenaires sociaux, mais sans doute un peu les médias aussi, pour expliquer, si je peux me permettre, que tout ne va pas super mal et que tout ne serait pas juste de l'affrontement. Des fois, il y a des conflits d'intérêts qui existent, évidemment, mais qu'on peut régler par la voie de la négociation et du compromis.
Et c'est ça que je disais tout à l'heure.
C'est ça que j'appelle de mes voeux, c'est-à-dire de la concertation et de la négociation.
Alors, il y a une grosse réforme qui s'annonce, c'est celle de la CSG. Puisqu'il est question d'augmenter la CSG et de faire basculer d'une certaine façon l'assurance chômage, les cotisations salariales sur le chômage et la santé sur la CSG. Il y a des calculs qui ont été faits qui montrent que les retraités seront perdants dans cette affaire. Les retraités qui gagnent plus de 1200 euros, dont la pension dépasse 1200 euros. Qu'est-ce que
et
vous
même
dites
les fonctionnaires.
Et les fonctionnaires qui ne sont pas concernés, puisque par définition, ils ont un autre régime, mais ils seraient mis à contribution pour l'augmentation de la CSG.
Et les épargnants aussi.
Et les épargnants aussi. Alors, qu'est-ce que vous répondez au gouvernement là-dessus, ce projet du gouvernement?
Juste pour faire la petite incise, puisque c'est vous qui faites des incises, mais pour les épargnants, je me dis que l'intérêt de la CSG, c'est au moins que l'ensemble des revenus contribuent à de la solidarité via la CSG, un ciblage sur la protection sociale, et ça nous va plutôt bien. Ensuite, sur les retraités. Vous savez, ça fait longtemps que la CFDT retraités dit qu'une participation des retraités à partir d'un certain niveau de retraite à la CSG n'est pas quelque chose de scandaleux, à partir du moment où ça finance de la protection sociale, y compris en direction de ces mêmes retraités. Je pense notamment au financement de la dépendance. Donc vous savez, donc tout dépendra aussi après de la façon dont sera ciblée cette CSG pour la protection sociale. Mais sur les retraités, par contre, j'insiste sur le fait que ça ne peut pas toucher les retraités les plus modestes. D'ailleurs, la CFDT, dans le cadre des concertations qui s'ouvriront sur les retraites et la protection sociale, dira que nous souhaitons une revalorisation des basses retraites pour arriver à équivalent 100% du SMIC.
Et les fonctionnaires,
la retraite est modeste, c'est jusqu'à quel niveau?
Oui, ça, je ne rentre pas dans ces questions-là, mais c'est en tout cas, quand vous n'avez pas le SMIC, vous êtes largement un retraité modeste. Et il y a beaucoup de femmes, notamment en retraite, qui n'ont pas...
– Alors, on est perdant à partir de 1200 euros.
– Voilà, et bien,
de pension.
Il faudra faire en sorte qu'il n'y ait pas de perdants en dessous de 1200 euros. –
Et les fonctionnaires ?–
Et les fonctionnaires, c'est la question du financement de la protection sociale, d'un système de protection sociale auquel les fonctionnaires n'ont pas forcément droit, notamment l'assurance chômage. Donc là, il faudra quand même trouver un dispositif. Ça ne peut pas être le financement de l'assurance chômage par les fonctionnaires sans qu'ils puissent accéder au système. Donc tout ça, aujourd'hui, vous savez qu'ils financent 1% de solidarité, les fonctionnaires, qui alimentent l'allocation chômage d'une certaine manière. Il faudra trouver les ajustements.
C'est une forme de retour à l'État que propose Emmanuel Macron, c'est assez intéressant, parce que si c'est l'impôt qui paye les indemnités chômage et plus les salariés,
Moi, je ne souhaite pas que ce soit totalement l'impôt. Hein. Je souhaite qu'on continue de maintenir un système contributif.
Si on élargit l'indemnisation aux indépendants, aux auto-entrepreneurs, aux démissionnaires, etc. Aux démissionnaires, ce sont des salariés. Mais c'est assez intéressant de voir que ce que propose Emmanuel Macron, c'est une étatisation d'une certaine façon. Il a même évoqué à un moment donné la privatisation, la nationalisation de l'UNEDIC. Est-ce que c'est cette orientation-là, elle tend pas à mettre les partenaires sociaux de plus en plus de côté de ce système?
Ça fera partie des discussions que nous aurons, et nous l'avons déjà évoqué avec le président de la République. Moi, je crois que dans un premier temps, le président de la République a parlé d'étatisation. Et puis ensuite, à parler d'évolution du tripartite. Moi, je suis pour une logique tripartite, qui, sur l'assurance chômage, objectivement, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Quand vous avez une convention d'assurance chômage qui, pour s'appliquer, doit forcément être agréée par l'État, et lorsque la dette est assumée et garantie par l'État, forcément, vous avez une forme de gestion tripartite. Donc là-dessus,
ça veut dire que c'est les partenaires sociaux qui vont décider, par exemple, de combien vont être indemnisés les auto-entrepreneurs.
Je crois que c'est important que les partenaires sociaux continuent de débattre et de fixer les règles pour savoir comment sont indemnisés les demandeurs d'emploi. Ça me paraît extrêmement important, de par leur connaissance du monde du travail et de la réalité du chômage. Donc, mais ça ne veut pas dire qu'après, il ne peut pas y avoir deux systèmes qui cohabitent et qui s'articulent, un système qui serait universel et un système qui serait plus contributif. Je rappelle, l'assurance chômage, c'est quand même « je cotise ». Et je reçois en fonction de ce que j'ai cotisé.
Dans le même ordre d'idée de ce qui vient d'être dit, il y a aussi la formation professionnelle, parce que d'une certaine façon, il veut redistribuer les cartes et court-circuiter un peu le rôle des syndicats dans ce domaine.
Sur la formation professionnelle, j'ai cru entendre qu'il n'y aurait pas de loi.
Ah bon ?
Bah, c'est ce que j'ai cru entendre.
Alors,
pas de loi, ça veut dire que vous ne redistribuez pas totalement les cartes. Si on veut rendre les systèmes plus efficaces, plus efficients, la CFDT est partante. Les choix sont clairs. La réforme de 2013 sur la formation professionnelle, elle a produit déjà beaucoup de résultats. Elle est en train de se mettre en place. Et aucun des acteurs patronal ou syndical n'a vraiment envie casser, parce qu'on est plutôt sur la bonne voie.
Une autre réforme qui se profile à l'horizon, c'est celle des retraites. Est-ce que vous êtes favorable ou pas à la retraite par point?
Ça fait 10 ans que la CFDT en parle. On ne va pas raconter d'histoire.
Mais vous savez aussi que la critique qui est faite, c'est que la retraite par point ne garantit pas que la valeur du point sera maintenue, puisqu'on voit dans des pays où ce système est appliqué que la valeur du point est dégradée
Je m'en méfie. Et les annonces un peu fourre-tout. Donc ça, cette concertation-là, elle s'ouvrira d'ici la fin de l'année, nous a dit le président de la République. La CFDT, elle aura deux enjeux. Un enjeu de justice L'enjeu de justice, c'est prendre la durée de cotisation comme référence et pas l'âge. Vous avez bien compris pourquoi lorsque j'ai parlé des carrières longues tout à l'heure. Prendre en compte la question des droits non contributifs, c'est-à-dire qui touchent la politique familiale ou la réduction des inégalités. Aujourd'hui, il y a besoin de faire bouger ces dispositions. Donc un enjeu de justice sociale et un enjeu de maintien d'un système par répartition qui garantisse un bon niveau de pension pour que ce qui est constitutif de ce maintien de système par répartition. Si vous voulez avoir confiance dans l'avenir, il faut qu'on vous dise que le système est viable.
Là, ce n'est pas ce qui est proposé, en l'occurrence. Un système de retraite à points, on n'est plus tout à fait dans le système de répartition.
Bien sûr que si. Vous cotisez en fonction de ce que vous touchez, et ensuite, ça vous donne un certain nombre de points, et c'est ces points qui détermineront le niveau de pension. Vous savez, un système lisible. Il faut un système lisible. Qui permette d'harmoniser les régimes. La CFDT n'est pas en désaccord
harmoniser,
là-dessus.
Harmoniser, y compris fonctionnaires et agents du privé
Mais vous savez, ça peut être très bon pour les fonctionnaires.
Ah.
Vous savez quand même que la retraite d'un agent de catégorie C dans une collectivité territoriale est fait partie sans doute des retraités dont vous parliez tout à l'heure.
Qu'est-ce qui se passe pour les régimes spéciaux dans ce système? Parce que
il faut discuter régime par régime. Il faut surtout pas.
Ça veut dire que ce sont les entreprises qui vont être appelées à compenser. Parce que moi, je suis agent de la SNCF ou agent d'EDF. Si je cotise par points, je vais avoir le même. C'est ce qui a été dit pendant la campagne. Chaque nombre de points donne le même droit à la pension. Donc je me retrouve à 55 ans avec une toute petite retraite si je veux partir. Comment ça se passe dans ce cas-là?
D'abord, le président de la République dit que cette réforme doit se faire en 10 ans. Là où ça a fonctionné, notamment en Suède, ça s'est fait sur une quinzaine d'années. Ça veut dire que, évidemment, c'est pas une réforme sur laquelle vous décidez en début 2018 et vous l'appliquez en début 2019. Hein. C'est juste mortifère et ça n'a aucun sens. Il faut que les gens qui ont contracté d'une certaine manière avec leur employeur, avec la collectivité, puissent aller au bout de ce à quoi ils ont contracté.
Les nouveaux arrivants, quoi, en quelque sorte.
Oui, et ça peut se faire avec davantage de justice sociale et davantage de reconnaissance des parcours. Enfin, il faut comprendre.
Mais ça va être à la SNCF de compenser, à EDF de compenser.
On peut faire du qualitatif. On regardera.
Et donc aux clients.
On regardera régime par régime. Vous savez, parce qu'aujourd'hui, c'est pas le cas.
Ce que vous voulez, c'est le maintien d'un régime par répartition et non pas basé sur les fonds de pension.
Oui, mais ça, là-dessus, je vais vous dire aussi. Alors, peut-être que. Mais ça, la CFDT ne nourrit pas énormément d'inquiétudes. Ce qu'on a lu dans ce qu'étaient les propositions, c'est pas le
d'accord. C'est important de le préciser. Tout à l'heure, vous disiez la campagne présidentielle, les élections présidentielles ont révélé une fracture sociale. On a parlé donc des différents projets de la CFDT, mais aussi une fracture territoriale, avec des Français qui vivent dans des territoires qui leur paraissent être abandonnés. Par rapport à la perspective de la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires présentés par le candidat Macron, en tout cas, quelle est votre position?
D'abord, aborder les questions de façon numérique, sans se repositionner sur quelles sont les missions et les besoins, c'est stupide. Je le dis, je le répète, j'ai toujours dit.
D'ailleurs, le ministre de l'Action publique, M. Darmanin,
lorsqu'il a reçu nos collègues de la CFDT notamment, a dit, nous voulons rediscuter. Voilà, c'était pas comptable, nous voulons discuter des missions. Il faut regarder les missions. Vous savez, on parlait des fracteurs territoriales. Lorsque vous avez le sentiment que vous n'avez plus d'accès à un quelconque service public, vous avez le sentiment d'être abandonné. Est-ce que c'est cela que l'on veut construire parce que l'on poursuivra une seule réforme comptable? La réponse est non. Donc il faut repartir des besoins dans tous les secteurs de l'action publique. Je pense qu'il faut d'abord partir des besoins dans le cadre des différentes fonctions publiques. On voit bien qu'à l'hôpital, ils sont déjà à l'os et la situation est catastrophique. On voit bien que sur la question de la politique éducative, dans l'éducation, il faut regarder où sont les priorités pour réduire les inégalités dès la plus petite enfance. Et donc repartons de ces missions-là. De ces travaux-là.
Vous demandez l'abandon des 120 000
Je ne demande pas l'abandon des 120 000, puisque je ne sais pas ce que ça veut dire. Je demande simplement qu'on reparte des missions, comme M. Darmanin s'est engagé devant les représentants des organisations syndicales.
Donc plus d'objectifs
chiffrés.
Et
je demande aussi qu'on arrête de stigmatiser les fonctionnaires. Et c'est pour ça que nous avons demandé, par exemple, qu'il y ait un rendez-vous salarial pour les fonctionnaires en 2017. Je crois qu'on s'aperçoit de plus en plus dans ce pays.
La porte a été un peu fermée là-dessus.
Dans ce pays, il y a un rendez-vous salarial qui a été annoncé en 2017. Maintenant, tout ça, c'est l'objet de la négociation. Vous savez, je pense qu'il faut qu'on se dise que notre pays, sans cohésion sociale, ne peut pas aller très loin. Et il n'y a pas de cohésion sociale sans une action publique qui soit efficace, qui est rendue par des fonctionnaires qui soient reconnus.
Nous avons un président de la République qui est très pro-européen, qui demande une fonctionnement différent de l'Europe, une Europe qui protège et qui est la confiance de ses concitoyens, mais il sait aussi que la France doit donner des preuves de sa volonté de réforme à la Commission européenne. S'il n'y a pas moins de fonctionnaires, si on ne fait pas ceci ou cela, comment on va faire ? Est-ce que vous croyez vraiment que le président de la République a une marge de manœuvre suffisante qui lui permette d'adhérer aux projets qui sont les vôtres ?
Mais je crois que on peut faire de la réforme qui soit juste, efficace et qui soit pas du moins. Est-ce qu'on va pouvoir considérer un jour dans notre pays que lorsqu'on évolue, ça peut être du mieux pour tous et pas du moins pour chacun ? Moi, je crois à ça. Je suis désolé. On a changé de paradigme. La mondialisation,
oui, mais il y a toujours les 3% numérique. Qui sont là. Il faut bien régler ce problème.
L'urgence écologique. Non, mais c'est pas les 3%. Mais depuis quand on aurait un dogme qui nous serait imposé que
proposition de François Mitterrand. C'est une proposition française, alors.
Depuis quand on dirige. Est-ce que les citoyens, ce qu'ils ont exprimé lors des deux tours d'élection présidentielle, c'est plus important.
Non mais l'Europe,
est-ce que c'est plus important que simplement une indication chiffrée ?
L'Europe
Moi, je
ne
dis
là.
Pas qu'il faut laisser partir la dette. La CFDT a été la première, en 1998 et 2002, à dire que une dette laissée aux générations futures, c'était catastrophique.
Alors, où on fait des économies ?
Mais des économies, il y en a déjà de faites, non ?
Peu.
Il y en a déjà de faites. Là, vous avez eu un accord assurance chômage qui a fait des économies sans revenir sur l'indemnisation des demandeurs d'emploi. Vous avez malheureusement une logique comptable qui a prévalu dans les fonctions publiques, ça a quand même coupé, etc., etc. Et donc après, on peut faire des réformes, si elles ont du sens, si elles sont intelligentes. La réforme du code du travail, si elle permet de redonner du souffle et en même temps de continuer à protéger les salariés, il n'y a pas de problème. Donc moi, je crois qu'il y a des réformes à faire en France, c'est sûr. Il faut préserver l'unité nationale et la cohésion sociale. Et de l'autre côté, il faut redonner de l'espace à l'Europe. Vous savez, ce que les citoyens expriment vis-à-vis de l'Europe, c'est une Europe qui est de la même manière qui réagisse à hauteur d'homme, qui crée des dispositifs qui soient compris socialement. Nous, on fait une proposition, c'est de créer une assurance chômage européenne. C'est une proposition qui est reprise, qui est proposée par la CFDT, qui est reprise par la Confédération européenne des syndicats, qui donnerait à la zone euro une logique budgétaire, un impact budgétaire, et en même temps qui aurait socialement du sens. Voilà ce qu'il faut faire. Il faut porter des projets en Europe. Moi, je suis totalement européen. Je souscris à ce que dit le président de la République sur l'Europe, mais une Europe qui protège, c'est une Europe qui est sociale également.
Il nous reste 1 minute 30. Et on voit aussi qu'à l'heure actuelle, le gouvernement se porte au chevet d'entreprises en difficulté. Ça se traduit souvent aussi par des plans sociaux. Est-ce que le gouvernement adopte la bonne attitude ?
Ça se discutera sur la durée. Vous savez, il y a les salariés de Tati, il y a les salariés de GMS, etc., de Arc International, pour lesquels nous sommes extrêmement inquiets aujourd'hui. Donc il faudra gérer les situations au cas par cas. Moi, je pense que très vite, nous aurons besoin d'un secrétaire d'État à l'industrie. De la même manière qu'il faudra qu'on nous dise qui s'occupe du tourisme. Enfin, je crois qu'il y aura besoin d'un peu de précision.
Le tourisme,
c'est fait, d'accord, oui. J'ai pas vu.
Pensez...
Mais en tout cas, à l'industrie, il y aura besoin. Parce que vous savez, par expérience, c'est pas une question de quel est l'interlocuteur, par expérience, on sait qu'on a besoin d'un secrétaire d'État et d'une équipe qui s'occupe spécialement des situations.
Est-ce que l'État doit rentrer dans le capital des entreprises qui sont en difficulté ? Par exemple, la recapitalisation d'Arc International par la Caisse des dépôts.
Décision en 30 secondes.
En tout cas, pour Arc International, on peut pas laisser mourir cette entreprise qui fait vivre plus de 20 000 personnes dans les bassins d'emploi, parce que là, on aurait une crise sociale qui serait majeure et on aurait de la misère.
Donc l'État chef d'entreprise, c'est possible ?
Non, temporairement, l'État qui prend ses responsabilités. Il y a déjà eu des choses de fait. Je rappelle que la BPI, quand même, fait un énorme travail et que, de temps en temps, mettre en avant ce qui marche, c'est pas mal non plus.
Merci, Laurent Berger. C'était votre grand jury. Celui-ci sera rediffusé ce soir sur LCI à partir de 21h. Très bon après-midi à tous.